À ce moment-là, la loi d'égalité homme-femme ne sera pas appliquée dans la société, forcément. Et on laissera, au nom de la démocratie, je suis en train de faire, non pas le procès de la démocratie, mais une critique anticipatrice des dérives de la démocratie. Au nom de la démocratie, on laissera des formes de ce que j'appelle l'incivilité démocratique, parce que la société civile, elle n'est pas à l'image de Salma Bakar, contrairement à ce que Salma croit. Non, il y a des formes de société civile, par exemple, les Himayat al-Thawra, les gardiens de la révolution, ils vous disent, mais nous, nous sommes des expressions de la société civile aussi. Donc, il y a des formes inciviles d'expression de la société. La civilité, comment dire, la société n'est pas spontanément civile. Elle ne l'est qu'après l'application d'un code civil, qui est un code de loi, de droit pénal, de droit civil, de règles, de lois que chacun a intériorisées, qui est la même pour tous, d'une loi uniforme. C'est ça la société civile. Ça n'est pas l'expression spontanée des idées des uns et des autres, parce que ça, c'est la guerre de tous contre tous. Et c'est ce qu'on est en train de vivre tous les jours en Tunisie. C'est-à-dire chacun, au nom de la démocratie, va dire non, mais moi, c'est mon droit. Or, la question du droit et de la loi doit être reposée dans la philosophie des droits de l'homme. Et je voudrais vous lire la déclaration de 1789 qui me paraît la plus importante. Enfin, pas vous la lire, bien entendu, mais vous dire qu'est-ce qu'elle disait, au fond, qui n'est plus, malheureusement, qu'on a mis, qu'on a fait passer, sous, qu'on a, comment dire, qu'on a occulté. La déclaration d'abord de l'homme, c'est les droits de l'homme et du citoyen, hein, en 1789. À mon avis, c'est la source mère, même de la déclaration de 1948, qui est beaucoup plus fumeuse. Bon, dans la déclaration des droits de l'homme de 1789, de la France, un certain nombre d'articles sont explicitement fondés sur les bornes de la loi. Chaque droit est soumis à la loi. Il n'y a pas de droit sauvage. Les droits sauvages civils, ça n'existe pas. Il y a toujours une loi qui punit ou qui sanctionne lorsqu'on dépasse, lorsqu'on a fait ce qu'on appelle des abus de droit. Or, aujourd'hui, en Tunisie, il y a tous les jours des abus de droit. Tous les jours, parce qu'il n'y a plus de loi. Alors, par exemple, l'article 4 dit, très, très fondamental hein, pour moi, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Tout le monde connaît ça par cœur. « Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes. » Les bornes, n'est-ce pas ? C'est très important, les bornes. Il n'y a pas de droit sans bornes. Des droits sans bornes ne sont que des instincts déguisés de la force. Il n'y a pas de droit illimité dans la vie. C'est ça le danger, même des sociétés européennes, quelquefois. Il n'y a pas, ça n'existe pas les droits illimités. Et d'ailleurs, les juristes l'ont très très bien expliqué, n'est-ce pas ? Donc, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Et sur 17 articles des droits de l'homme, il y en a au moins 12 ou 13 où vous avez les bornes de la loi, l'ordre public, en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée, etc., etc., doit être sévèrement réprimée par la loi, article 9, telle et telle chose. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Bon, je veux dire qu'on prend la Déclaration des droits de l'homme et on a oblitéré, complètement masqué, toute la question de la loi. Alors, c'est tout le principe du contrat social de Rousseau, si vous voulez. C'est la force de l'État qui fait la liberté de ses membres. Hein. C'est la fameuse phrase du contrat social de Rousseau. La force de l'État fait la liberté de ses membres. Alors, pour ce qui concerne, ce sont des principes très généraux que je vous donne là. Et c'est pour ça quand Madame la Présidente disait évolution, révolution, d'accord. Et si c'est évolution et régression, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait face à une volonté générale, réactionnaire, qui veut revenir? On ne peut pas empêcher une société de vouloir vivre selon des principes réactionnaires. Après tout, l'Iran l'a fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Tunisiens? Si une majorité se déclare pour un... C'est la volonté générale, c'est la volonté civile qui décide d'être réactionnaire, de revenir sur les droits des femmes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se bat comment? Avec quelles armes? Puisque eux ont des armes beaucoup plus puissantes, qui sont l'argent et les armes, les vraies armes. Qu'est-ce qu'on fait face aux armes, puisque quelqu'un a été tué? Comment on va se battre? Avec des mots? Comment? Quelle va être la lutte? Comment on va dans cette lutte inégale? On est perdant, hein? Moi, je pense qu'on est perdant si on ne réfléchit pas. Donc, ce n'est pas révolution, c'est régression. C'est restauration. Or, la démocratie est fondée sur le principe conflictuel du progrès et du conservatisme. Toute démocratie doit accepter le principe du conflit entre une partie de la société qui est progressiste et une partie de la société qui est conservatrice. Toutes les démocraties. Donc, si on veut appliquer le principe démocratique dans sa lettre, on doit accepter. Sinon, on n'est pas démocrate. On ne peut pas être démocrate en croyant que la démocratie égale le progressisme. Pas du tout. La démocratie, c'est le droit pour des conservateurs de dire aussi, voilà comment nous, on veut vivre. C'est ça, la démocratie, si on est honnête. Donc, on ne peut pas imposer. C'est pour ça que les religieux sont une position très forte. Parce que les droits de la religion sont des droits démocratiques. Ce n'est pas des droits théocratiques uniquement. Ils se réclament de la philosophie démocratique des droits de l'homme. C'est ça, les droits de la religion aujourd'hui. Donc, on ne peut pas les... Si on se bat sur le terrain des droits de l'homme, on est perdant aussi. Je vous dis tout ça parce que c'est toutes les questions que je me pose auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, on les cherche, hein, puisqu'on est dans une situation inédite. Je vais vous donner, par exemple, le problème de l'autorité de la loi. On a vécu, si vous voulez, depuis l'indépendance, dans un système despotique, effectivement. Mais ce système despotique était très, très bien aménagé, très subtilement aménagé, et en particulier, il protégeait les femmes. Donc, c'était, on va oublier un peu le mot despotisme, hein, pour ne pas trop polémiquer, on va prendre centralisation républicaine. D'accord ? Centralisation pyramidale, on va oublier le mot démocratie, on va mettre république. La république est autoritaire. Ça, elle a toujours été autoritaire. C'est la loi. C'est l'autorité de la loi, la puissance publique. Donc, cette autorité républicaine, cette centralisation excessive, je le reconnais, dans un pays comme la Tunisie, a été nécessaire pour imposer, n'est-ce pas, que les maris ne battent pas, par exemple, leurs femmes. Eh bien, les maris étaient punis de prison, sont punis aujourd'hui de prison s'ils battent leurs femmes. C'est un délit pénal, hein, de frapper sa femme en Tunisie. Donc, et ça, ça a été un peu imposé de manière républicaine, autocratique. C'est une loi, c'est la force de l'État. Bien. Or, qu'est-ce qui s'est passé après la Révolution? Eh bien, c'est que cet autoritarisme est perçu, si vous voulez, comme étant l'œuvre manigancée des femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que l'antiféminisme aujourd'hui dans la société est lié à la haine du régime de Bourguiba. C'est clair. Le parti Nahda est un parti fondamentalement anti-bourguibien. C'est-à-dire le diable en personne, c'est Bourguiba, hein, pour Nahda. Et je crois que c'est une idée qu'ils ont, que Bourguiba est un mécréant, etc., 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 un diable, et qui a désislamisé la société. Donc, pour réislamiser, et il a désislamisé la société grâce aux femmes. Donc, si vous voulez, c'est la faute des femmes, aujourd'hui, s'il y a eu une dictature en Tunisie. Voilà comment ça se passe dans la tête des gens. Donc, pour instaurer la démocratie, paradoxalement, il faut, n'est-ce pas, de nouveau imposer la loi. Donc, il y a une vindicte anti-féminine, puisque la femme, c'est celle par qui le scandale de la tyrannie survient. C'est ça le problème des femmes aujourd'hui en Tunisie. C'est qu'elles ont été associées à un régime tyrannique et qu'on n'a pas pu faire la différence. Bien. Alors qu'en fait, pas du tout. La place des femmes dans la société était parfaitement démocratique. Caractéristique, si vous voulez, que maintenant, comme je l'ai dit, la démocratie est en train de libérer toutes les formes d'expressivité sociale, ce qui d'ailleurs est, bon, par certains côtés, produit des choses magnifiques comme le Harlem Shake, etc., qui est une des choses les plus ravissantes qui nous soit arrivée, bon, petite note positive, depuis la Révolution, grâce aux jeunes. Je trouve ça merveilleux. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut une danse, comme dirait, vous savez, Boileau disait un seul mot vaut mieux qu'un long discours. Hein. Une seule danse vaut mieux, de quelques secondes, vaut mieux qu'un long discours. Parce qu'ils ont tout dit, n'est-ce pas? Ils ont vraiment tout dit. Vous voyez, je crois qu'il faut réfléchir en termes de... la société civile n'est pas bonne, n'est pas animée forcément de bons sentiments. Ça, c'est une chose maintenant dont c'est-à-dire que ce ne sera pas un despotisme qui viendra d'en haut, mais ce sera un despotisme, ce que j'appelle la tyrannie, qui vient d'en bas, des exigences de certains courants qui viennent d'en bas, qui sont parfaitement démocratiques, un peu comme le fascisme en Europe, hein, qui venait d'en bas. animé bien sûr par des tribuns du peuple, ce qu'on appelle des imposteurs, en gros, hein, des imposteurs politiques, qui excitent donc la crédulité des gens, mais ça vient d'en bas. Et il faut se battre avec Manon, il faut se battre avec une tyrannie qui ne vient plus d'en haut, mais qui vient d'en bas, et qui est soutenue par ce que j'appellerais une nouvelle, comme il y a eu, comme la chaîne du commandement a été cassée après la Révolution. Le désordre s'inscrit maintenant dans les institutions. C'est-à-dire, c'est pas simplement la société, à la limite, je dirais, elle est plus ordonnée que l'État aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de l'État, je dirais que là, le principe anarchique s'est introduit, s'est infiltré dans les institutions étatiques. Et l'ordre public, la puissance publique qui régentait les passions humaines, ces passions sont à l'intérieur même de l'État et ne sont plus régies par aucune loi. Et on le voit tous les jours, d'ailleurs, ils n'ont pas pu fermer de gouvernement encore. Donc, ils sont animés de passions. Donc, le désordre, aujourd'hui, est à l'intérieur de l'État. Il n'est plus dans la société. Et je trouve que, de certains points de vue, la société tunisienne réagit très bien. Elle tient d'elle-même, à la limite. Je dis, mais on n'a pas besoin de gouvernement. En Belgique, je crois que vous êtes resté longtemps sans gouvernement. Non, vous ne vous êtes pas entretué. Donc, il y a eu les problèmes d'identité wallonne, flamande. Vous avez eu la crise identitaire là, qui a failli vous diviser. Ben nous, on est un peu dans cette situation, mais vous voyez, bon. Dans le pouvoir exécutif, au cœur même de l'autorité, l'autorité est viciée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a plus d'autoritarisme, Dieu merci, on dit, mais il n'y a plus d'autorité du tout. Or, l'autorité politique, l'autorité tout court, est fondamentale pour régir les rapports entre les êtres humains. Alors, la légitimité de l'autorité, qui va la saisir? Eh bien, c'est très facile. Aujourd'hui, c'est la religion, c'est Dieu. Quand il n'y a plus... Et donc, vous voyez cet effritement de l'État. Avant, on avait l'État qui était en quelque sorte déifié, comme en France, l'État-nation, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai, il y avait une sacralisation un peu abusive, avec etc. Mais c'était une manière de passer du sacré divin au sacré civil. Or, aujourd'hui, le chemin est exactement le contraire. On est en train de détruire l'État pour restaurer au moins un ordre qui est un ordre évidemment extrêmement dangereux, qui est donc fondé sur le sacré divin, qui fait en sorte que, alors, ça va être une attaque en règle des libertés privées. Alors, il y a comme une inversion. Avant, on avait des libertés privées, mais on n'avait pas de liberté publique. On ne pouvait pas faire de réunions, se manifester dans la rue, tout ça était interdit. Maintenant, c'est le contraire. Tout le monde peut aller dans la rue et manifester. Bon, il y a quelques bombes lacrymogènes de temps en temps, mais on n'a plus de liberté privée. Les femmes, par exemple, comme Madame la diplomate qui a été rappelée, tout simplement parce qu'elle dînait avec un homme au restaurant. Donc, ça devient, si vous voulez, les libertés privées ne sont plus du tout protégées. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en prison parce qu'ils ont dit qu'ils étaient agnostiques. Il y en a un ou deux, je crois, qui fait 7 ans de prison uniquement parce qu'il a dit qu'il n'était pas religieux. Donc, on a beaucoup plus de liberté publique et on va avoir de moins en moins de liberté privée, c'est-à-dire qu'on va avoir une société puritaine, inquisitoriale, qui va aller regarder dans votre vie avec qui vous sortez, avec qui est votre amant et votre maîtresse, etc. Et ça va être les libertés de mœurs, comment vous êtes habillé. Il va y avoir des interdits vestimentaires, qu'on ne peut plus se balader en short comme on se baladait à l'époque quand j'étais jeune, puisque moi je me baladais en short à Tunis sans aucun problème. Non, on ne peut plus. Les jeunes ne peuvent plus se balader en short dans la rue, les jeunes femmes. Donc, on va entrer dans un système inquisitorial extrêmement dangereux où l'anarchie étatique va être réglée par la police des mœurs. Donc, ce qui gouverne maintenant en Tunisie, ça va être la police des mœurs. Voilà. Donc, police des mœurs qui peut aller jusqu'à l'assassinat d'un militant laïque démocratique. Donc, par exemple, quelque chose, et je terminerai sur une note vraiment obscure là, qui me paraît tout à fait très angoissante pour moi, c'est quand j'ai vu, il y a quelques mois, la télévision nationale qui est dirigée par une femme, je précise. Elle est toujours là, la femme qui dirige la télévision nationale. Bon, hélas, comme tu dis. Parce que des fois, les femmes qui dirigent ne sont pas forcément... C'est pour ça que moi, je ne suis pas féministe au sens où il n'est pas sûr du tout que les 50 femmes nommées à l'Assemblée aillent dans le sens que nous souhaitons. Bon, parce que ce sont des pions, d'accord? Ce sont des pions, des servantes d'une idéologie. Ce ne sont pas des femmes animées par une liberté critique vis-à-vis de ce qu'on leur a appris. Ce sont des femmes obéissantes. très obéissante. Bon, et pour des femmes désobéissantes comme Selma et moi, de nature, c'est très difficile. Bon. Donc, je préfère un homme désobéissant à une femme obéissante, hein, personnellement. Donc, je ne fais pas de féminisme restrictif. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, le féminisme est limité quand il enferme les femmes dans leurs conditions. Parce que moi, je ne suis pas féministe, uniquement pour servir la cause des femmes, mais je suis féministe parce que je pense que la femme peut apporter une amélioration de la condition humaine, c'est-à-dire des hommes. Je suis féministe pour les hommes, pas pour les femmes. Pour les êtres humains en général, mais aussi pour l'autre de la femme qui est l'homme, l'altérité. C'est ça l'altérité. La femme est habitée de la notion d'altérité. Vous savez, la notion de sacrifice de la femme, c'est quoi ? C'est la notion, simplement le sens de l'autre qu'elle a toujours eu. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a chez la femme ce sens de l'altérité qui est peut-être gravé dans sa mémoire domestique, mais qui est très importante pour l'humanisme futur, c'est-à-dire considérer l'autre autant que soi. Bien. Donc je parle pour les hommes. Hein. C'est mon discours, c'est surtout un discours pour les hommes, femmes, réunis, pareil. C'est pareil pour moi. D'ailleurs, je pense que la pensée n'est pas sexuée. Hein. La pensée est neutre. Je crois à la neutralité de la pensée. Moi, je ne crois pas. Quand je pense, je ne me dis pas je pense en tant que femme. Je pense, tout simplement. Je pense donc je suis. Hein. Je suis cartésienne. Je pense que la raison n'a pas de sexe. Voilà. Les sentiments non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié. Ah oui ! Non, un truc très grave, un truc très, très, très grave. Donc, à la télé, j'étais comme ça, comme je ne dors pas, comme je vous dis, je regarde. Et tout d'un coup, je vois une gosse de 5 ans. C'était peut-être pendant Ramadan, une histoire comme ça. Voilée, une petite gosse. Mais, je ne sais pas, un peu plus haute que ma petite fille qui a 8 mois. Ouais, bon, elle doit avoir 4 ans. À la télé, entièrement voilée comme une nonne en train de réciter le Coran. Là, ça a été le choc de ma vie. Bon, j'ai compris qu'on était rentré dans un abîme. Et ce que j'avais dit d'ailleurs avant, j'avais dit avec la constituante, avant même qu'elle soit, on va aller vers l'abîme. Parce qu'on ne sait pas si elle va être meilleure ou elle va être pire que celle qu'on a miraculeusement produite. Parce qu'il y avait quelques hommes exceptionnels, je dis bien quelques hommes et quelques femmes, qui ont décidé, comme Bourguiba, d'imposer l'égalité donc des sexes. L'égalité des esprits. J'aime mieux l'égalité des esprits. C'est l'expression de Condorcet, vous savez. L'égalité des sexes, je ne suis pas très sûre. Mais l'égalité des esprits, je suis sûre. Et je vois ça. Et je dis, bon, alors, une femme à la tête de la télévision tunisienne qui accepte et qui ne met pas en jeu son poste, qui ne démissionne pas et qui fait passer pendant le Coran des petites filles voilées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire retour du patriarche qui voile ses filles. Ça veut dire retour de la femme qui ne peut pas défendre sa petite fille contre son mari, chose qui n'existait pas en Tunisie. Aucune femme tunisienne n'aurait accepté qu'on voile sa petite fille. Elle aurait plutôt tué le mari, d'accord ? Donc ça veut dire retour de l'obéissance, du conformisme religieux, de la soumission et des pratiques attentatoires de l'enfance. Alors autant j'accepte, et j'ai écrit un livre, Islam Pride, derrière le voile, qu'une femme se voile par choix. C'est son libre arbitre. Et là, je suis tout à fait d'accord, il faut absolument respecter ce choix-là et ne pas se croire supérieur parce qu'on n'est pas voilé. Une femme voilée ou une femme non voilée, pour moi, c'est exactement la même chose. D'accord ? Dès l'instant où elle a choisi, où elle n'est pas soumise à une domination ou un chantage affectif, etc. D'accord ? Bien. Donc, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est le libre arbitre et le féminisme, c'est ça. C'est d'accepter que chaque femme choisisse son mode de vie. Si certaines sont plus heureuses et se sentent mieux en étant voilées, moi, je ne me sens pas supérieure parce que je ne suis pas voilée. L'essentiel, c'est qu'elle ne m'oblige pas à le faire. Comme moi, je ne l'oblige pas à se dévoiler. Donc, c'est une sorte de modus vivendi réciproque. Et on peut très bien s'entendre et cohabiter, il n'y a aucun problème. Mais quand on voile une petite fille, ça, pour moi, c'est une pratique attentatoire de l'enfance. N'est-ce pas ? C'est l'anagramme de voile, viol. Moi, c'est un viol de l'enfant pour moi. C'est très simple. Donc, si la Tunisie n'est pas capable, et aujourd'hui, il y a plein de petites écoles où on voile les petites filles et où on leur enseigne. C'est la liberté démocratique d'enseigner. Alors qu'avant, on avait la puissance publique, il y avait une loi fondamentale pour l'éducation, il y avait des principes, et les classes étaient mixtes. On obligeait, il y avait des petits tabliers dans mon enfance, il y avait les tabliers des garçons et des filles. Pareil, on ne pouvait pas distinguer, n'est-ce pas ? Et maintenant, les petites filles, les petites écoles maternelles reçoivent un enseignement religieux et on voile les mineurs. C'est vraiment là, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose qui est non seulement une transgression des droits de l'homme, mais un crime, tout simplement, un crime contre l'enfance. Et qui parle de ces enfants voilés ? Personne, pratiquement personne. Je vois pas, très peu. Et pourtant, tous les jours, c'est ce que nous vivons. Donc, voilà, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, mais je pourrais nuancer, parce que je suis allée très vite, donc ça peut paraître, ce que j'ai dit, peut paraître caricatural, mais il faut garder à l'esprit, encore une fois, ces choses très désagréables et très pénibles pour améliorer. Il ne faut pas que les démocrates s'illusionnent sur leur surpuissance révolutionnaire. Je pense que l'illusion de la surpuissance de la société civile, pour moi, est terminée, et que si on ne passe pas à un autre mode de lutte, beaucoup plus institutionnalisé, en ayant les armes de la puissance publique aussi, en essayant de si vous voulez, de faire cohabiter. C'est pour ça que j'ai toujours prôné la cohabitation maintenant avec le parti islamiste, pour trouver justement ce compromis historique qu'on n'a pas trouvé, parce que peut-être, je ne dis pas qu'ils ont un double discours, moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas au double discours des islamistes. Non, je crois qu'ils sont déchirés. Je crois qu'ils ont plusieurs courants en eux et qu'ils sont déchirés entre le format culturel qui les a habités depuis 30 ans et tout d'un coup la réalité civile qui est plus puissante qu'eux et à laquelle ils cèdent, bien sûr, à leur corps défendant, mais je crois qu'il y a en eux ce débat difficile et je ne voudrais pas être dans la peau d'un islamiste parce qu'il y a un truc avec Dieu, ils sont dans un rapport avec Dieu, avec le châtiment. Et je pense qu'ils n'arrivent pas à transgresser un certain nombre de choses. Donc, c'est un déchirement intérieur plus qu'un double discours. Je veux les créditer de ça. Voilà. Un certain nombre d'entre eux, en tout cas, comme Hamadi Jbeli. Je le crédite vraiment d'une réelle volonté d'instituer des libertés civiles, bien qu'il soit un islamiste. Et avec le geste qu'il a fait de démissionner, pour moi, il est un peu passé de l'autre côté. Et je n'arrive plus à le percevoir comme un islamiste pur et dur, quoi. Je pense que cet homme est habité plus maintenant. Alors, le grand débat aujourd'hui, c'est la nation, la religion. Est-ce que la patrie, le sacré patriotique, va être au-dessus du sacré religieux ou pas? Vous savez que le gros problème de l'islamisme, c'est qu'ils ne reconnaissent pas la patrie. Pour eux, ça ne compte pas. La seule patrie, c'est le ciel, n'est-ce pas? C'est l'au-delà. Donc, il n'y a pas de frontière nationale, ça n'existe pas, c'est ça le problème de l'islamisme mondial radical, c'est la destruction des frontières nationales et tout le bourguibisme est fondé sur la construction de l'idée patriotique, de la nation anticolonialiste. Et donc là, il y a un débat de fond très important où le problème des islamistes, c'est qu'ils ne se sentent pas tunisiens. À la limite, ils s'en fichent de la Tunisie. Ils veulent réaliser cette espèce de mythe magnifique de l'islam. L'islam, c'est une chose merveilleuse, parce que si vous vivez... Moi, je vis dans la Médina, c'est les villes les plus douces du monde. C'est les villes où la douceur de vivre est la plus belle du monde, la société musulmane, dans laquelle j'ai vécu. Mais c'est la tradition, c'est pas l'idéologie religieuse. Il faut faire la distinction entre tradition et religion. Donc cette société traditionnelle est merveilleuse sur le plan esthétique, de la créativité urbaine, de l'architecture, il n'y a pas plus beau que l'architecture. C'est la perfection architecturale, il y a un modèle d'architecture que les Européens veulent imiter, c'est la maison arabe, c'est la ville arabe. Porzampar, qui est un très grand architecte très connu, disait toujours que c'était son modèle. Donc il y a des créations de la culture islamique qui sont magnifiques, mais ce n'est pas l'idéologie religieuse. L'idéologie religieuse, c'est le triomphe de la laideur, sur la beauté, si vous voulez, de la tradition. C'est le triomphe de l'uniformité sombre, endeuillée, lugubre, morbide, sur la créativité traditionnelle de l'islam qui est fondamentalement diversifiée, riche, pleine de costumes. Si vous regardez des livres, comme je disais à Simone dans la voiture, les livres sur nos costumes traditionnels, mais c'est des encyclopédies. Et des costumes brodés, voilés, pailletés, des corsages de nos ancêtres, les costumes des femmes rurales pleines de couleurs, les bijoux. C'était l'exaltation de la beauté. Or, aujourd'hui, c'est l'exaltation de la laideur, la religion, vous voyez. Donc, on est face à ça. Il faut qu'on règle ça par la démocratie. Je ne sais pas si on va y arriver. Je vous dis très franchement. On va essayer, hein. C'est pas qu'on va pas baisser les bras, mais voilà, je voulais juste vous dire ça.
Merci. Merci, Élodie. Merci. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'avais dit dans mon mot d'introduction qu'on avait eu des débats passionnés sur la différence entre laïcité, neutralité, sur le niveau de la Constituante est-il un texte sacré ou un texte évolutif en fonction, donc reprend-il aussi des principes dits sacrés? Et ces principes-là, ceux-là même, sont-ils, peuvent-ils évoluer par rapport à la société qui évolue aussi? Donc voilà, c'est exactement ce genre de débat-là qu'on a eu quand on était en Tunisie. Et quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous disiez, c'est effectivement le poids de la légitimité démocratique, qu'on ne se trompe pas justement sur ceux qui ont la légitimité démocratique, avec un regard ici par exemple qui serait le nôtre par rapport à des partis islamistes qu'on n'a pas, ou qui viennent d'apparaître chez nous. Ou par exemple, la même chose chez nous, on a certains partis d'extrême droite à qui on reproche à la fois les agissements et leur programme, mais qui ont une légitimité démocratique. C'est un vrai débat, une vraie cause. Voilà, par rapport à cette légitimité démocratique et par rapport à, notez aussi, la société qui n'est pas spontanément civile, qui doit être donc constamment en débat. On doit constamment pouvoir se remettre en question et se remettre en débat. Donc voilà, vraiment, merci. Alors nous avons notre dernière oratrice, je dirais aussi grâce à laquelle on est ici, puisque l'idée des jeudis, évidemment rendu l'hommage à Simone Suskind qu'il fallait, mais les jeudis du PFB, c'est ça, c'est avec une association de pouvoir ouvrir l'hémicycle, si c'est porteur de sens, d'ouvrir un lieu de parlement, justement, avec ce qu'on parle de légitimité démocratique. Et donc, Zeynep Benachour, qui est la présidente de l'Association des démocrates tunisiens au Benelux, et donc c'est avec l'association qu'on a organisé cette matinée, et ce serait intéressant justement de nous parler, de voir comment, après la Révolution, cette association a vu le jour, et pourquoi une association des démocrates tunisiens au Benelux, comment accompagner ce processus justement de démocratisation. Merci. Après, on a le débat animé par Benoît Lauze.
Eh ben, merci au Parlement francophone bruxellois qui nous donne cette chance donc de parler de la Tunisie, des femmes tunisiennes. Et pour moi, en fait, la citoyenneté, je suis tunisienne mais je suis belge aussi, et la citoyenneté, je l'ai vécue, je l'ai pratiquée pour la première fois de ma vie en Belgique, et j'ai voté pour la première fois de ma vie en Belgique, j'ai jamais voté en Tunisie. Donc pour moi, c'est cet élan démocratique que j'ai appris à travers la vie en tant que citoyenne belge, me permet d'aller vers la Tunisie, et c'est l'esprit de l'Association des démocrates tunisiens au Benelux, c'est de renouer avec notre pays et d'être partie prenante dans ce processus démocratique et dans l'élaboration du projet de société qu'on est en train donc de faire actuellement en Tunisie. Donc par rapport à la situation des femmes et par rapport à la Tunisie, je voudrais revenir sur l'image de la Tunisie, donc en pays qui préservait les droits des femmes. Donc pendant de très longues années, le régime Ben Ali, dans son effort constant donc de propagande pour s'attirer la sympathie des opinions publiques et des médias européens, a présenté la Tunisie comme un pays tout à la fois préservé de l'islamisme et doté d'une législation qui n'avait rien à envier à celle de l'Europe en ce qui concerne les droits des femmes. Cet effort de propagande a été largement couronné de succès, ce qui fait qu'aujourd'hui, de ce côté-ci de la Méditerranée, donc je parle de l'Europe en général, on a parfois tendance à penser que le problème actuel des femmes tunisiennes, après le renversement de la dictature, c'est le risque de remise en question d'une situation qui jusqu'à présent était pleinement satisfaisante, et précisément de sa remise en question par les islamistes. On arrive alors à une grille de lecture simpliste qui réduit la multiplicité et la diversité des enjeux donc du combat des femmes à une simple confrontation entre des islamistes anti-féministes et des laïcs pro-féministes. Ce que je voudrais souligner dans mon intervention, c'est que la question des droits des femmes en Tunisie se présente de façon beaucoup plus complexe. Donc, si on prend le côté de la législation,